Emmanuel danse sur le générique.
J'adore ce générique.
Salut tout le monde, salut Manuel, salut Augustin.
Salut.
Bienvenue dans un sujet de Manuel. Bienvenue dans un podcast qui sera tourné autour de l'idée de Manuel, auquel on adhère beaucoup avec Augustin, sauf qu'on savait absolument pas comment formuler ce qu'on voulait dire sur le sujet. Donc on a dit à Manuel, tu vas manager les 4 points, c'est ça? 4 points, t'as noté Manuel?
J'ai noté 4 points dans mon raisonnement, mais...
Sur un sujet qui peut quand même porter à débat... C'est l'autodiscipline. Aujourd'hui, on va parler de comment bien se fouetter pour pouvoir avancer et mener notre route vers nos objectifs, c'est ça? Est-ce que j'ai tout suivi
jusqu'à
là?
On aurait dit un slam de Grand Corps Malade, mais c'est un peu ça, ouais.
Bah, y a de ça, la question de l'autodiscipline, elle est, je trouve, intéressante parce qu'on voit de plus en plus de gens qui se focus sur des ambitions, des objectifs, et qui en même temps ne mettent pas en face l'autodiscipline qui va en face de ces objectifs et de ces challenges, en fait.
Ce que tu dis, Manuel, ça me fait clairement penser aux gens qui changent de boulot, par exemple, mais qui veulent un tout autre poste ou qui ont d'autres ambitions dans leur vie et qui ne vont rien changer dans leur quotidien. Ils vont garder le même quotidien de celui qu'ils avaient dans leur précédent boulot avec des objectifs qui sont totalement différents, en fait.
Les Américains disent un truc que j'aime beaucoup qui dit « shit in, shit out ». Si tu mets de la merde à l'entrée, t'auras de la merde à la sortie, pour faire simple.
Oh, c'est pas mal.
Ça mérite d'être clair.
C'est pas très poétique, mais...
Non, c'est pas poétique du tout. Mais au moins, c'est clair. Ah oui, on en est là.
Oh, non.
On en est là. J'aime bien cette image parce que elle est assez claire, et moi ce qui m'insupporte dans la vie, c'est de voir des gens qui courent après des ambitions, des challenges, et encore une fois, on ne juge pas le niveau d'ambition, on ne juge pas le niveau de challenge. Ça peut être réussir un truc qui peut être tout à fait minime, etc., comme réussir un truc immense, ultra ambitieux, etc. C'est pas le sujet. Le niveau d'ambition n'est pas le sujet.
Et on mélangera pas d'ailleurs non plus la valeur, parce qu'au final, tu peux avoir de super belles ambitions et autres sans que ça ait de rapport avec de chiffres, avec...
Oui, bien sûr, c'est pas forcément économique.
Bien sûr.
Ça peut être pour te réaliser, enfin, peu importe. Mais ce qui est sûr... c'est que dès que tu formules une ambition, il y a en face un niveau d'implication, de discipline à avoir qui est mathématique. Tu peux être romantique par rapport à ça, tu peux te dire « ah ben ça peut me tomber dessus, je vais y arriver par le plus grand des hasards, etc. etc. » Mais non, en fait la réalité c'est que non, si tu ne fais pas preuve de ta discipline, en réalité quand tu parles d'objectif, tu parles d'un rêve.
Mais ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, à part montrer le rêve, on ne montre pas derrière le rêve atteint toute l'autodiscipline qu'il y a dû avoir. Donc ces gens-là qui rêvent, comme les autres, d'atteindre des objectifs qui sont très grands, mais ils ont très rarement la réalité en face, parce qu'en fait, on leur partage très peu. C'est très américain de partager les échecs, ce à quoi on a dû faire face pour réussir. Aujourd'hui, quand on voit des gens réussir, on voit juste leur réussite.
Alors,
et du coup, on a du mal à s'imaginer par là où il faut passer en termes d'autodiscipline.
Moi, j'aurais comparé ça. Alors, c'est très, très bête, hein, mais tu compares ça aux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'un mec comme Federer, il reste pas jusqu'à 40 ans dans le top 10 mondial sans autodiscipline. Mais je pense que c'est très comparable à ça. C'est-à-dire que tu réussis pas un objectif dans le business si tu te mets pas des barrières, un régime, mais qui soit pas forcément alimentaire, mais un régime de vie sur tes notifications, sur plein d'autres choses. Je pense que ça se compare beaucoup. Ces mecs-là sont pas là par hasard. Et eux, à mon avis, l'autodiscipline, elle est 100 fois plus violente que ce que nous, on imagine.
Oui, d'ailleurs, pourquoi les bio des entrepreneurs fonctionnent, tu vois, la bio de Musk ou de Steve.
J'adore, hein, je suis en train de lire la biographie de Musk, j'adore.
Eh bien, c'est parce qu'on découvre un peu des coulisses.
Ben oui.
Et c'est vrai qu'on est dans une société du spectacle où on te vend avant tout le résultat. On te dit, ce mec est devenu connu, ce mec est devenu influent, cette meuf a du pouvoir, etc.
Il y a des reportages Netflix maintenant.
On fait des reportages Netflix pour mettre tout ça en scène.
Big Flo et Oli, deux chanteurs français. Là.
Ouais, exactement.
Chanteur, tu vas un peu loin peut-être, mais...
Ouais, d'ailleurs,
je suis pas du tout d'accord là-dessus.
Moi, bon, moi j'ai dû,
j'ai
adoré.
Moi, j'ai bien respect
pour leur travail.
Moi aussi.
Mais du coup, j'ai regardé le reportage. J'ai été plutôt pas déçu parce que j'attendais rien, mais on va dire pas du tout estomaqué par les humains. Voilà. Humainement, je les ai trouvés d'une grande banalité. Voilà.
Et bim. Okay.
Mais bon, peu importe. Leur travail est remarquable.
L'autodiscipline est folle aussi, parce qu'il y en a eu quand même énormément dans leur carrière.
Beaucoup de travail. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses enfantines.
D'accord.
Voilà, très enfantines, en fait. L'autodiscipline. Il y a manqué de maturité. Voilà. Mais bon, peu importe. Là où je voulais en venir, c'est de dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. On nous vend sans arrêt le résultat, mais on nous montre rarement les coulisses. On nous montre rarement le fait que derrière un geste juste, derrière la maîtrise d'un savoir-faire...
Il y en a 5000 par jour qui sont faits depuis...
Il y a énormément de travail.
La première chose que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, parce que au fur et à mesure du temps qu'on a passé ensemble avec Manuel, il m'a... Au bout de quelques mois, tu me faisais faire la même chose par email, tout le temps pareil. Et au bout de 2-3 mois, je me souviens, je dis à Manuel, bon, c'est bon, j'ai compris comment on faisait ça, je peux passer à autre chose. Et il me dit, il n'y a que lorsque tu as tapé sur le marteau des milliers et des milliers de fois pendant des dizaines d'années que tu sauras exactement où taper et à quel moment dans 20 ans. Donc tu vas le faire encore très longtemps avant d'être persuadé de pouvoir décider de quand est-ce que tu vas le faire ou quand est-ce que tu vas le faire à quelqu'un d'autre.
Exactement.
Et ça m'a marqué parce que finalement, je prends du plaisir aujourd'hui à taper sur le même marteau tous les jours et à me dire dans 20 ans, je serai tellement peut-être performant à taper exactement au bon endroit, au bon moment et avec la bonne maîtrise, mais c'est exactement comme ton exemple avec Federer. Quand tu le vois une fois et qu'il loupe une balle et que tu es en mode « Oh, comment il a pu louper ça ?» c'est juste aberrant de penser une seule seconde que s'il avait pu faire différemment, il l'aurait fait tellement il est entraîné.
Bien sûr, et c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions. C'est une vie de discipline, d'abnégation, de répétition, de sans arrêt répéter les mêmes routines, les mêmes habitudes, etc. Et d'ailleurs,
est-ce que tu t'ennuies pas après ? C'est ça ?
En fait, on va pouvoir en parler, mais déjà, si on veut caractériser l'autodiscipline, moi je dirais que c'est pas du tout un truc qui est codé.
Tu n'es pas avec ou sans, quoi.
Ouais, exactement. C'est pas codé en toi, c'est pas génétique. Tu peux le décider. Après,
ton caractère fera que c'est plus facile ou plus difficile d'être très autodiscipliné, dépendant de tes objectifs. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre,
exactement,
et mettre en place.
C'est quelque chose que tout le monde peut surtout décider. Et c'est ensuite quelque chose que tout le monde peut apprendre parce qu'il y a des vraies méthodologies. Et si tu t'y tiens, c'est parfaitement atteignable. Et la question est une question de volonté. Et on arrive à mon premier point, c'est que dans l'autodiscipline, le premier point, c'est la volonté. Et tu as deux comportements face à la volonté. Il y a les gens qui attendent que ça leur tombe dessus, qui disent « Non, mais ça, je ne veux pas le faire. » Ok ?
Il est rare, ce point-là.
Par exemple.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a des gens qui disent « Je ne veux pas me réveiller à 5h du matin tous les jours. »
Ah oui, non, mais ça,
pour, oui, mais parce qu'ils estiment que sans faire ça, ils y arriveront quand même.
Exactement.
C'est ça le gros problème.
Alors non, pas forcément. Moi, je pense qu'il y a des gens qui disent « Je ne veux pas me lever à 5h » et ils savent justement que de ne pas avoir ce rythme-là et d'avoir un peu moins d'autodiscipline, ça peut les desservir. Je pense qu'il y a des gens qui sont très conscients de ça. Qui se disent,
Attends. On va préciser les choses. Je ne dis pas que tout le monde doit se lever à 5h du matin. Ça dépend de tes ambitions, de ce que tu as à faire. Donc, il y a des ambitions qui ne requièrent pas ce sujet et il y a d'autres ambitions qui le requièrent. Ouais. Donc, à un moment, si tu es boulanger, ça va être très compliqué de te lever à 11h.
C'est sûr.
Tu vois. Donc,
Tu pourras toujours essayer, mais tu vendras moins que celui d'à côté, quoi.
Voilà, tu peux le tourner dans tous les sens. Il y a quand même un problème. Et bien, c'est exactement la même chose avec l'entrepreneuriat ou avec tes projets. Il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a des gens qui ont essayé pendant des milliers d'années avant nous. Il y a quand même des trames, des patterns qui sortent de ça, ou philosophiques, ou méthodologiques, ou intellectuels. Et tu peux te dire... Je suis plus intelligent que la majorité des plus intelligents de ces 1000 dernières années et je vais trouver une autre façon de faire où tu peux juste dire je vais gagner du temps, je vais appliquer la méthode qui a fait ses preuves depuis 1200 ans et c'est mon niveau de maîtrise dans cette méthode qui va faire ma différence.
Donc avant de parler d'autodiscipline, on peut surtout parler le fait d'être réaliste. Parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent écouter aussi ce podcast en se disant « Ah, ils ont raison, je vais être autodiscipliné, je veux lancer ma plateforme comme Mark Zuckerberg et je vais faire la même chose. » Non, mais il y a ce côté de justement de réalisme dedans. Parce que si tu commences à ce que tes ambitions et tes objectifs sont pas du tout en accord avec ce sur quoi tu es prêt à travailler dans ton autodiscipline, bah t'y arriveras jamais ou tu seras souvent déçu.
Après ça peut tomber dessus, ça veut dire que sur le côté ça peut tomber dessus, c'est que tu te dis bon bah là je suis dans mon taf, j'ai pas plus à faire que ça, j'ai pas besoin d'être autodiscipliné parce que je suis dans une routine. Ça peut arriver.
Qui te suffit, qui te comme suffit, disait arrive, Gainsbourg. C'était Gainsbourg, non, qui disait ça. Qui disait, je trouve que la bêtise, ce sont les gens qui disent, ça me suffit. Ouais. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais moi, quand je découvre des gens qu'on discute et qui me dit qu'il est très heureux, je le crois. Mais alors, la phrase de ça me suffit, je n'arrive pas à comprendre que son cerveau.
Pour l'instant, ça lui suffit. C'est des gens.
Mais ça ne suffit jamais.
Bah, si, il y a des gens.
T'as toujours envie que tes projets. Ah, vous... Mais c'est ça qui est fou.
Tout le monde n'est pas toi.
Non, mais je ne suis pas tout le monde non plus. Je n'ai pas cette prétention-là.
J'en venais à un fait en disant ça peut te tomber dessus ou tu peux te dire je change. Mais typiquement, l'histoire du mec de McDonald's. C'est-à-dire que le mec, il avait sa routine, il vendait des machines à crème.
Mais ça lui suffisait pas. Il avait tout le temps envie de voir plus haut.
Oui. Non, mais le mec, il allait voir.
Il voulait vendre
ses inventions qui étaient pas ouf et que
il voulait vendre au plus grand nombre. Ce mec s'en foutait de savoir quoi vendre. Il a juste trouvé qu'il pouvait vendre au plus grand nombre.
C'est pas ça. Ça lui est vraiment tombé dessus. Il vendait des inventions qui étaient nulles et il pensait qu'il allait réussir.
Le fondateur. Allez voir le film Fondateur. Il est vraiment fou.
Il y a ce truc là qui lui tombe dessus et à ce moment-là il se dit ah non c'est plutôt ça que je dois faire, c'est autre chose et là je me donne à fond. Mais ça lui tombe dessus donc ça peut arriver quand même.
Ça va être intéressant parce qu'après avec les autres points de manuel on va voir comment. Justement, tout ça se marie parfaitement bien.
Et en fait, si j'essaye de nous faire réfléchir sur cette question, le premier point, effectivement, c'est la volonté. Et il y a deux attitudes par rapport à la volonté. Soit tu attends qu'elle te tombe dessus, soit tu la génères. Au fond de toi, il y a toujours une voix qui te dit « Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Je sais que je vais être plus performant pour préparer mon examen ou préparer mon épreuve si je vais me concentrer 2 heures à la bibliothèque plutôt que le faire chez moi avec mes notifs, mon téléphone qui sonne, la PlayStation allumée, la radio au fond, etc., etc. Tu le sais. Tu le sais que aller à la bibliothèque, laisser ton téléphone dans la bagnole, ne pas être distrait, être concentré pendant 2 heures non-stop va produire plus de performance.
Mais le plus
ça
dur.
Ça dépend des bibliothèques. Hein. Moi, j'allais à la bibliothèque parce qu'il y avait des.
Non, mais d'accord, mais on va pas faire une théorie sur les bibliothèques.
Le plus dur pour tout le monde dans ce cas de figure, c'est pas de le faire une fois dans la semaine. C'est de le faire tous les jours,
exactement.
Pendant des années.
Exactement.
Et ne jamais attendre un résultat parce que tu vas tout le temps le chercher.
Et ce que je veux dire par rapport à la volonté, c'est que. À partir du moment où tu as compris ça, soit tu le fais, soit tu te dis « je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais je n'arrive pas à le faire sans être stimulé ». Et c'est ce qui fait de toi un entrepreneur ou pas. Un entrepreneur a la force intrinsèque qui vient de lui de faire un truc qui ne lui est pas naturel, mais dont il sait qu'il produit un meilleur résultat. Il va s'auto-convoquer. Alors que quelqu'un qui n'est pas vraiment un entrepreneur, il a besoin qu'on le lui dise, qu'on le lui rappelle, qu'on l'engueule, etc. Alors c'est pas grave.
Il faut juste l'accepter.
Il faut l'accepter. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que le mentoring existe, que on a tous, de mon point de vue en tout cas, le devoir de transmettre, etc. Parce que à force de transmettre ça à d'autres, ça devient un réflexe pour d'autres, ils deviennent meilleurs, ils le comprennent, ils l'appliquent, ils le transmettent à leur tour. Donc tu as besoin d'être accompagné là-dedans. Les deux écueils, c'est de se dire « bon, c'est bon, maintenant j'ai compris qu'on avait besoin de volonté, et donc je vais l'avoir et je vais le faire à ma façon bon, ». Le « à ma façon » est un problème, est un vrai problème. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, mais il n'y a pas à ma façon, en fait.
Exactement.
Et ensuite, il faut avoir l'humilité de dire, bon, ben là, pendant un certain nombre d'années, j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul, qu'on me le rappelle, etc., etc., parce que c'est pas encore naturel. Je n'ai pas la maîtrise de ce geste naturellement. C'est un geste technique, ça s'apprend. Tu vas pouvoir l'exécuter, tu vas pouvoir avoir besoin de feedback, tu vas avoir besoin qu'on te corrige ton geste, etc., avant qu'il devienne naturel.
Il y a des gens que t'en as marre de corriger parce qu'ils comprennent pas la dixième fois aussi.
Exactement.
Mais c'est un peu ça le problème du truc.
C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Tu fais une erreur une fois, c'est super. Quand tu reproduis la même erreur, ça s'appelle un choix.
Ok.
Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça aussi que tu peux trier tes élèves.
Au-delà de la volonté pour son propre projet, je pense que, et c'est comme ça qu'à peu près tous nos podcasts se rejoignent, c'est qu'il faut surtout aussi avoir la lucidité de se dire je n'ai peut-être pas l'entourage pour m'accompagner vers mes objectifs, pour m'accompagner dans la volonté que je vais déployer, parce que si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, t'as une volonté de folie, tu rentres à 19h, t'as envie de bosser jusqu'à 1h du mat, et qu'à côté, t'as ta femme ou ton mec, ou tes enfants ou autres qui te rappellent toutes les deux secondes que t'es pas assez avec eux, que t'es pas assez avec eux, que t'es pas assez avec eux, il y a peut-être un moment où il faudrait revoir aussi ton planning dans la journée, ta façon de faire les choses pour accorder du temps correct aux gens autour de toi, sans forcément que ça n'ampute sur tes objectifs et sur la volonté que tu as de travailler.
Je sais pas où sont les putes dans cette affaire, mais
j'ai pas osé, moi, tu vois, j'ai hésité à la faire, puis je me suis dit c'est pas très drôle.
Le temps, tu peux toujours le prendre. Je déteste les gens qui me disent j'ai pas le temps. Non, tu n'as pas envie de prendre le temps.
Voilà.
Tu n'as pas envie de le prendre, mais le temps, tu peux l'avoir, parce que, et je vais parler très crûment, quand c'est pour ton propre plaisir et que tu as envie de t'accorder, tu fais ce que tu veux, tu penses à ce que tu veux, mais vous aurez compris, tu le prends le temps dans ta journée. Si tu as vraiment envie de le faire, tu le prends. Donc que tu passes une demi-heure à te faire plaisir tout seul, ou que tu passes une demi-heure à travailler sur tes objectifs et la volonté de faire ce que tu dois réellement faire pour aller vers tes objectifs, le temps, tu l'as, n'importe qui l'a. Quand je vois les reportages avec, excusez-moi, hein, mais Bill Gates qui se balade en forêt tous les matins pendant une heure,
oui, on
sans
en
rien.
La dernière fois, le mec d'Amazon qui...
C'est
allait...
fabuleux. Ouais. Le temps, ils l'ont. Tout le monde a le temps maintenant. Comment est-ce que tu gères? Alors, c'est sûr que si t'as encore plein de petits trucs techniques qui te sont posés dans la journée parce que t'as pas su déléguer, parce que t'as pas su correctement manager tes équipes, tu ne trouves jamais le temps.
Mais la vérité, on va se la dire telle qu'elle est, c'est que... il faut avoir de la lucidité sur son contexte et son environnement. C'est-à-dire que c'est très difficile pour les gens d'admettre qu'ils ont un contexte qui est inadapté.
Et on parle pas de matériel, hein?
Non.
Non, non, non. Tu pourrais faire ton projet dans une cave avec papier, stylo, c'est pas le problème.
C'est pas le sujet. C'est,
oui,
c'est
mais ça, c'est le doux.
Est-ce que mon contexte autour de moi me pousse à être dans une forme de volonté, de concentration? Ou est-ce qu'il est plutôt distrayant, papillonnant? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est est-ce que mon environnement humain me pousse à exceller ou à me gargariser? C'est-à-dire, je suis entouré de gens qui me disent que je suis formidable et ça nourrit mon ego d'entendre que je suis formidable. Ça me fait gonfler mon ego comme un pop-corn et je m'en réjouis. Ou au contraire, est-ce que mon environnement, il est régressif? C'est-à-dire, mon environnement me tire vers le bas et me dit « Oh là là, c'est tellement formidable ce que tu fais, etc. etc. C'est exceptionnel, etc. C'est, ça sort de la norme. » Sauf que la réalité, c'est que ça provient de gens qui eux-mêmes ont absolument zéro volonté, zéro ambition. Donc de toute façon, ce commentaire, il, par définition, tu le disqualifies.
Et si je peux donner le raccourci, évidemment, pour être autodiscipliné beaucoup plus rapidement, eh bien, c'est comme au ski, quand tu veux aller plus vite, eh bien, plutôt que de te mettre derrière les piou-piou qui, de toute façon, sont moins bons que toi, tu vas tout le temps aller vers une team qui skie beaucoup mieux que toi, pour que tu sois frustré de ne pas être aussi bon qu'eux. Et si demain tu veux être autodiscipliné du jour au lendemain, eh ben le meilleur conseil, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont déjà autodisciplinés, plus autodisciplinés que toi, et d'essayer de te créer une routine pour que ces gens-là t'imposent leur autodiscipline. Parce qu'au départ, quand j'ai rencontré Emmanuel et qu'il faisait tous ces trucs via Agenda et qu'à chaque fois il me disait la phrase « Moi, tu sais, tant que c'est pas dans Google Agenda, ça n'existe pas », que je me pointais au rendez-vous sous la pluie et que le mec, il était pas là du tout, qu'il était à l'autre bout du monde. Je t'envoie un texto il y a deux semaines. Mais qui envoie un texto pour donner un rendez-vous? Moi, c'est pas dans Google Agenda, ça n'existe pas. Et ben, le fait d'être entouré de gens comme ça, ben, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui sort de ma vie sans que ce soit marqué dans mon Google Agenda. Mais c'est cette autodiscipline dont j'avais, et je dis bien j'avais besoin, pour atteindre les objectifs que je m'étais fixé et que je veux atteindre.
Mais ça demande de se faire mal. Tu peux en témoigner.
C'est horrible. C'est horrible.
Tu peux en témoigner. C'est dur.
Sur quoi c'était dur, toi?
Les deadlines.
Je voulais faire la suite de la comparaison. Et du coup, sur les pistes de ski, ça sert à rien d'aller hors piste en se disant ça va plus vite, il y a
débile.
Des cailloux et tu finis comme Schumacher, quoi.
D'accord, bonne vanne, ça roule. Je sais pas si ça roule. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? C'est surtout sur les deadlines. J'avais une conscience de deadline. J'étais déjà sérieux. On va dire que j'étais sérieux, mais j'étais pas autodiscipliné. C'est-à-dire que je pouvais dire je rends tel projet telle semaine, mais j'oubliais que dans les emails il y avait peut-être une date qui était marquée et qu'on était déjà 3 jours après. Voilà.
Moi,
ça, j'avais pas forcément cette idée-là.
Je me souviens d'une anecdote. C'est que ce qui est souvent caractéristique des gens qui
tu reveux de l'eau.
Ouais, je veux bien.
Je vais chercher de l'eau.
Qui apprennent l'autodiscipline. C'est une expression qui existe beaucoup qui dit « je te le rends début de semaine ».
Ou alors « je te rappelle plus tard ».
Oui, ou « je te rappelle plus tard ». Non, mais tu te souviens de
ça? Bise à Léo, d'ailleurs. Léo en fait, Duff, à chaque fois exactement. Qu'on lui envoie un message ou autre, il me dit « je te réponds plus tard » et on lui pose la fameuse question. C'est quand plus tard?
C'est ça, c'est ça. Et donc, début de semaine, moi je te répondais en te disant « mais début de semaine, ça n'existe pas, Romain ». Donc début de semaine, c'est lundi 16h ou mardi 18h ou c'est ce que tu
veux. Et d'ailleurs, ça surprend beaucoup aujourd'hui nos clients quand je leur dis « je reviens vers toi vendredi avant midi ». Ils sont en mode « d'accord, bah c'est très précis hein, au moins ». Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de dire « je reviens vers toi vendredi » et que vendredi à 9h, tu as un message de ton client, vendredi à midi, tu as un message de ton client, vendredi à 15h, tu as un message de ton client et qu'en fait, tu as l'impression d'avoir fait du mauvais boulot parce que tu le rends qu'à 17h. Finalement, tu avais raison. Tu l'as rendu vendredi.
Bah,
mais le fait
ça.
De ne pas être autodiscipliné en t'imposant des règles qui font que tout le monde est dans un cadre ultra compréhensible et qui savent exactement où vont tel et tel projet. Encore une fois, on parle beaucoup de boulot, mais c'est pareil dans le perso. Moi, ça m'insupporte les gens qui me disent « ouais, on se voit en fin d'après-midi » et ils attendent 17h ou 17h30 pour te dire où est-ce qu'ils se voient
moi,
et à quelle heure. C'est
insupportable. Je sais même pas ce que c'est la fin d'après-midi d'ailleurs. C'est débile, mais...
Ça dépend des gens.
Ouais.
Alors, horrible. De toute façon, il faut comprendre que tous les trois, on a des jours dans notre vie, mais les week-ends, les semaines, tout ça, ça n'existe pas. Parce que quoi qu'il en soit, même quand on peut...
Un peu plus que vous, je pense, les week-ends. Un peu plus. Pas tellement, mais un peu plus.
Tous les clients qui reçoivent...
Le jour du Seigneur, quand même.
Tous les clients qui reçoivent un email le lundi à 8h, je l'ai pas écrit lundi à 8h. Je l'ai écrit un dimanche, en plein après-midi.
Et tu l'as programmé pour le lundi à 8h.
Évidemment.
Non, mais
je m'adapte à tout le monde. Je comprends que tout le monde n'a pas la volonté de travailler le week-end ou autre. Et moi, je sais qu'avec les objectifs qu'on a, bah, il faut que je travaille un petit peu plus que d'autres.
Ça
c'est tout.
Ça fait partie des premiers trucs que je dis. Hein. Moi, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de machin. Il y a des jours où tu performes, il y a des jours où tu te reposes. Et que ce soit un dimanche, un lundi, un mercredi, peu importe. Il y a des jours. Alors après, il ne faut pas nier la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des moments où tu as plus d'interaction avec les autres. Parce qu'ils sont eux-mêmes disponibles et là, etc. etc. Donc il y a des plages d'interaction sociale et il y a d'autres plages où tu peux quand même bosser, même s'il n'y a pas d'interaction sociale, mais qu'on soit dimanche, samedi ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. En
fait, l'autodiscipline, ce n'est pas d'être à la merci des autres. Ce n'est pas parce que pour réussir ton objectif, tu dois absolument travailler avec cette personne et que cette personne t'envoie un mail un dimanche et que tu n'avais pas choisi de répondre un dimanche à un email
ou à 2h
du matin. Le fait d'être autodiscipliné, c'est réussir à se regarder droit dans la glace en se disant
je
non,
pas.
Mon moment pour répondre à ce sujet, c'est telle heure, à telle date. Que ça lui convienne ou pas, c'est ma règle. C'est comme ça que je veux travailler pour arriver là où je veux.
Avec Romain, on est discipliné là-dessus. Dans l'agenda, quand je réponds pas, j'ai marqué Augustin absent pendant le week-end. Et quand il n'y a pas marqué, en général, ça m'arrive d'avoir des messages le week-end.
Pour autant que je l'appelle
non,
pas.
C'est pas pour autant que tu m'appelles pas, mais quand même.
Mais je sais qu'il y a une excuse. Voilà.
C'est vrai qu'avant, on faisait pas du tout ça. Avant, on s'appelait tout le temps. Il y avait pas
c'était horrible. On pouvait s'appeler 3-4 fois par jour, alors qu'au final, un bon call en fin de journée de 10 minutes, ça suffit amplement pour régler points, tous les problèmes de la journée. Voilà.
On a même mis en place maintenant un point hebdomadaire avec l'équipe pour faire le point sur tous les sujets. On le fait une fois dans la semaine, plus besoin de le faire. Et du coup, on gagne du temps.
Sinon, tout le monde s'appelle tout le temps, c'est insupportable.
C'est pas la réunionnite non plus, en mode on fait des réunions, on va faire de la créa, c'est génial, et il y a tout le monde qui est là, quelle horreur. Non, là, c'est vraiment, on a déjà les points avant, on sait de quoi on va parler, et ça dure 10 minutes.
Et pour revenir à ce premier point qui est la question de la volonté, il est étroitement lié à la question de la tentation. C'est-à-dire que si tu te connais toi-même, si tu connais le niveau de travail que tu es obligé de mobiliser pour avoir cette volonté, cette autodiscipline, tu connais aussi les tentations qui peuvent te faire dévier ou dévisser. Il est beaucoup plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. C'est une évidence, c'est frappé au coin du bon sens. Donc, à partir du moment où tu connais...
Ne garez pas une Formule 1 en bas de chez moi, effectivement, je risque de moins travailler.
Par exemple. Donc, à partir du moment où tu connais tes tentations, bah, évite-les. Évite-les. À partir du moment où, tu nourris ton ambition, tu as envie d'avancer, etc. etc. Donc, évite ces tentations-là, tout simplement. Au lieu d'essayer d'y résister. Si tu t'exposes à ces tentations et que tu essayes d'y résister, bah c'est vachement plus difficile. Et comme tu es un humain, et bah à un moment, tu vas finir par craquer, ou ça va être difficile, ou tu vas te faire souffrir. Mmh. Donc, le plus simple, c'est de les éviter. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Mais si tu as un petit peu d'introspection, si tu te connais un minimum... Eh bien, mets-toi dans une configuration qui va maximiser ta volonté et qui va te permettre de ne pas être dans le mal, dans la souffrance, de résister à telle ou telle tentation. Essaye juste de faire en sorte qu'elle ne soit pas dans ton environnement le plus proche.
Et le plus difficile, en général, c'est le début, parce que ensuite, une fois que tu as pris cette habitude-là, généralement, ces tentations ne reviennent pas vers toi quand tu te les as évitées pendant un mois, deux mois, trois mois. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sort beaucoup, par exemple, et où ses objectifs ne collent pas avec le fait de sortir beaucoup.
En ce moment, c'est pas mal, il n'y a pas de tentation. Hein.
Voilà, on en évite beaucoup. Là-dessus, c'est sûr qu'une fois que tu sors plus pendant un mois ou deux, tout ton entourage va beaucoup moins t'appeler pour sortir. Mais le plus dur, c'est le début. C'est sûr qu'au début, ça va être compliqué parce que tous les deux jours, tu vas recevoir une propale pour aller faire la fête.
Alors, mon deuxième point, c'est...
On est qu'au deuxième.
Ah,
d'accord.
Mon deuxième point, c'est la motivation.
Alors, du coup, quelle est la différence entre volonté et motivation? Parce que pour moi, c'est pas très éloigné.
C'est pas très éloigné, sauf que la motivation, c'est... Enfin, si on doit distinguer les deux, la volonté, c'est... J'ai véritablement envie d'arriver quelque part, on est sur une espèce de roadmap, etc. etc. La motivation, c'est tous les jours je fais quelque chose. Mm-hmm. Tous les jours, tu vois, il y a.
C'est ce qui te permet d'être autodiscipliné. Exactement. Parce que tu ne peux pas être autodiscipliné si tu n'es pas motivé, un minimum au bout d'un moment.
La motivation, c'est ta dose de satisfaction quotidienne.
D'accord, j'ai compris.
Qui fait que ça sert ta volonté étant sur un espace-temps un peu plus large, un peu plus loin.
Ouais, c'est en général.
Okay. Voilà. Et la question de la motivation, elle est intéressante parce que tu as des gens qui te disent ah ben aujourd'hui, je ne suis pas motivé.
Oh, je l'ai tellement eu cette phrase au début.
Oh, aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Oh là
et ben, demain non plus, tu verras. Demain, voilà. Tu ne seras pas du tout motivé. Ben, pourquoi? Ben, parce que tu es viré. Salut.
Mais c'est un peu ça.
Et
la question de la motivation, elle est terrible parce que tu as des gens qui attendent que la motivation leur tombe dessus. Comme la misère sur le monde, en fait. Tu
parce
vois
qu'ils espèrent qu'un jour, ils vont prendre un truc entre les mains qui sera un peu plus sympa que d'habitude.
Il faut être obligé à te poser, en fait.
Du coup, ils arrivent à faire des trucs qui leur plaisent ou qui leur sont plaisants ou satisfaisants.
Mais ça, c'est très humain, Manuel. On ne peut pas l'enlever.
Non, c'est super.
L'être humain a besoin de se dire que c'est un minimum amusant pour le faire.
Sauf que moi, ce que je dis, c'est il faut mettre les choses dans un autre ordre. Ta motivation doit provenir du fait que tu as fait des choses que tu n'avais pas envie de faire. Absolument pas envie de faire. Et qui ont produit des résultats que tu n'attendais absolument pas. Et ces résultats, du coup, te motivent. La motivation, c'est
pas... On dirait qu'il fait la météo à chaque fois.
Ça me rappelle un exemple pour moi, hein, c'est tout. Hein. C'est que je me dis, avant, j'avais zéro motivation fin de mois, faire les factures et tout. Ça me saoulait parce qu'il faut... C'est débile, mais il faut être bien cadré et tout. Je fais tout. J'ai pas d'application, j'ai fait...
J'ai pris un comptable.
Même pas. Je me suis organisé avec un vrai truc avec des trucs préfaits et tout. Maintenant, je mets 4 fois de moins de temps qu'avant et ça me fait plaisir de les faire. Alors, je détestais ça. Et un jour, je me suis dit, je me motive.
Ça, c'est vrai.
Je m'oblige à bien les faire une fois et après, ce sera plus facile. Et effectivement, maintenant, c'est plus un problème.
Mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où tu as défini un niveau d'ambition, il faut comprendre que tu vas devoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire.
Oui, ça, c'est la vie. Hein.
Donc, c'est comme ça. On fait pas que
c'est pas
ce
la vie de tout
plaît.
Le monde, Manuel
si,
Augustin.
Il si, y a toujours des gens, tu fais toujours des choses qui te plaisent pas, franchement, c'est pas possible.
Mais c'est pas la première chose à laquelle pensent les gens quand ils veulent réussir. En général, ils veulent réussir pour atteindre directement le truc qui va leur plaire.
Oui,
c'est
oui,
ça
oui.
qui c'est...
Et en fait, tu vas devoir bouffer de la merde en fait, tu vas devoir faire des trucs qui te plaisent pas, tu vas devoir faire des trucs qui te motivent pas ou dont tu trouves pas du sens, tu trouves pas de plaisir, tu trouves même pas d'envie à les faire. Et en fait, ce qui va devenir important, c'est que ta motivation va provenir du fait que tu les fais et que tu vois des résultats se construire. Pas le contraire. Si tu attends d'être motivé pour les faire, alors tu ne les feras jamais. Si tu les fais et que tu vois des résultats que tu n'attendais absolument pas et que tu pensais totalement inimaginables, que tu n'aurais jamais considéré comme possible.
Puis, excusez-moi,
c'est de là où naît la motivation.
La satisfaction que c'est que d'avoir fini quelque chose de super chiant, où t'arrivais pas à te motiver, etc. Genre, ça fait vraiment plusieurs jours que c'est dans ton truc de rappel, etc. Tu le finis. Finalement, en fait, ça t'a pas pris tant de temps que ça.
Alors que c'était chiant.
Et cette satisfaction, et quand cette merde revient. Eh ben, elle te fait plus peur. C'est ce qui fait que plus la motivation est là, plus t'arrives à surmonter des choses difficiles, mais plus tu peux du coup faire de plus en plus de choses difficiles et accéder à ton objectif qui est plus grand.
Oui, ou que ce soit un truc très chiant, tu vois. Ça m'arrive tout le temps à la fin des podcasts. À la fin, je suis super content.
C'est vrai qu'au début, à chaque fois qu'on parle d'un podcast, on a du mal à trouver un sujet. Et quand on le finit, on est super content de ce qu'on a fait.
Ouais, je sais pas, après, c'est aux gens de dire, hein, mais ça se trouve, c'est nul. Hein, mais...
Hashtag takeout sur Twitter.
Ouais. Ouais.
Mais bon, la question de la motivation, c'est un sujet important parce qu'il y a trop de gens qui attendent d'être motivés pour faire les choses, alors qu'en réalité, il faut faire les choses pour être motivé à les faire.
J'ai un mood, je suis pas dans le mood de le faire là.
Exactement.
C'est tellement. Terrible. Oh là là, en ce moment, j'ai tout ça. À chaque fois, j'ai ça. Je ferai plutôt ça demain, je serai plus dans le mood.
Alors, mon troisième point, c'est la question des émotions. On dit toujours dans le business qu'il faut se méfier de ses émotions. Moi, je pense.
On dit même qu'il n'y en a pas. Qu'il n'en faut pas.
Exactement. Moi, je pense tout le contraire. Parce que quand tu réfléchis, tu vois, c'est vraiment évident. Le business est généré par des humains. Les humains, c'est des êtres irrationnels et émotionnels, même pour les plus mauvais d'entre eux sur la question émotionnelle. On a à la fois un cerveau et à la fois des rationnels, je veux dire, des raisonnements et à la fois des émotions. On vit des choses qui nous touchent plus ou moins. Si tu te méfies de tes émotions, tu te méfies en fait d'une partie de toi-même. Si tu te méfies de tes émotions, t'es en train de renier une partie de ce qui te constitue.
Mais même si t'as envie de suivre de temps en temps tes émotions, il faut bien que tu les bloques à certains moments.
Je pense qu'il ne faut pas considérer que ces émotions nous donnent des ordres, mais il faut considérer que les émotions nous donnent des indications. Mmh. D'ailleurs, on dit ce truc, je le sens comme ça.
Oui.
Je le ressens comme ça. Mon feeling,
ouais.
C'est ça. Tu vois, ça, c'est pas le cerveau. Ça se passe dans ton ventre. Dans ton ventre, tu sens que ça, c'est juste, en fait.
Ouais, y a aussi des indications qui peuvent paraître techniques. Même si tu sens super bien un client pour une opportunité ou autre, y a quelque chose qui est factuel. Soit il a le budget qui permet de faire ce qu'il veut faire ou pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas non, que de l'émotion au bout d'un moment.
Il y a des clients, tu les sens ou tu les sens pas, même s'ils ont du budget. Hein, je suis désolé. Hein.
Exactement. Moi,
vraiment,
ce que je dis.
Il y a des clients, je t'ai toujours dit, il y a des gens avec qui on a travaillé ou des gens où je te dis, ça je le sens, ça je le sens pas. Même si la personne est compétente, tu penses qu'elle peut être incroyable, tu dis, je le sens pas.
D'ailleurs, maintenant, dès qu'il me dit que je le sens pas, la personne ne passe pas le pied de la porte parce que j'ai beaucoup trop bouffé à chaque fois où je voulais essayer d'avoir raison d'ailleurs.
Voilà. Il n'y a pas que le rationnel qui compte. Évidemment que le rationnel compte et qu'il ne faut pas l'oublier, mais l'émotionnel te donne aussi des indications. Et en fait, je trouve qu'il y a cette espèce d'habitude à nous laver le cerveau pour nous dire il faut enlever les émotions de toute décision. C'est pas vrai. Il faut évidemment driver nos décisions par des éléments rationnels, mais il faut les enrichir de ce que l'on ressent. Et quand on ressent un truc, même quand il nous paraît étrange, jamais vécu, étonnant, inédit, etc., il faut écouter ces indications. Ces indications, elles sont là pour nous dire quelque chose. Elles sont là pour compléter le raisonnement. Si rationnellement, tu produis pas de résultats, évidemment, tu ne vas pas continuer. Si rationnellement, tu produis des résultats et que émotionnellement, on te dit bah, « il faut que tu ailles encore plus loin, encore plus dans tes retranchements, encore plus dans tes limites, etc. etc. » Eh bien, peut-être qu'il faut écouter ça. Peut-être qu'il faut écouter ce que ton rationnel ne connaît pas encore, mais que ton émotionnel te pousse à faire pour te surpasser. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours.
Mais
il y a
je pense
que tu ressens, en fait.
Je pense justement que le côté rationnel est le plus facile à gérer.
Oui, je suis d'accord
avec
toi.
Ce qui, pour moi, est le plus difficile dans le milieu professionnel, c'est d'écouter ses émotions, parce que c'est celles qui font le plus mal. C'est la voix qui te dit le matin quand t'as envie d'appuyer sur snooze et de pas partir au boulot, qui te dit putain mais tu sais que c'est comme ça que tu dois faire, tu sais que c'est avec cette production là que t'arriveras au résultat. Et le côté rationnel veut te dire regarde ton agenda, t'as quoi, t'as deux rendez-vous aujourd'hui, t'as le temps d'aller au studio, t'as le temps de produire. Et ton côté émotionnel a envie de te pousser, mais pour moi c'est le plus dur à gérer au quotidien, parce que parfois rationnellement j'ai envie de me dire ça suffit, j'ai bien fait le truc, etc. Et mon cerveau, à chaque fois, le côté émotion me dit, c'est pas aussi bien que d'habitude. Pourquoi tu fais pas aussi bien que d'habitude ?
Et puis il y a un truc qui est très important, c'est que ton rationnel, il s'est construit sur ton vécu, ton contexte, ton éducation, ton environnement, tes bases familiales, tes bases socio-culturelles. Tu n'as pas le même rationnel en fonction de l'endroit où tu es né sur la planète, etc. etc. On t'a pas dit les mêmes choses, on
bien
t'a
sûr,
pas élevé dans les
sûr.
Mêmes choses. Le rationnel, il est à la fois ton raisonnement, mais aussi le fruit de ton contexte. L'émotionnel, c'est une espèce d'indice qui échappe à tout raisonnement et qui te dit « Tiens, regarde par là, il y a peut-être de la valeur. » Et en fait, je pense que ce qu'il faut essayer de passer comme message, c'est de dire « Le rationnel nous dit qu'il faut faire ça et l'émotionnel nous donne une indication complémentaire. » Ton émotionnel, c'est ce qui se passe dans tes tripes, au fond de toi. C'est pas ce qui se passe dans ton cœur. Hein. Ton émotionnel, c'est ce qui se passe dans tes tripes. À certains moments, dans tes tripes, tu te dis, bah, en fait, j'ai aucune raison particulière de rester ou de me séparer de cette personne, mais dans mes tripes, je sens que ça se passe mieux quand je suis avec cette personne que quand je suis pas avec cette personne. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Ça me demande de me pousser dans mes retranchements. J'ai envie d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je sais pas l'expliquer, mais je le sens comme ça. Et à partir de ce moment-là, il faut écouter cette indication. Parce que c'est paradoxal, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu écoutes ce paramètre, tu es toi-même beaucoup mieux, plus équilibré, moins dans la frustration, et donc tu atteins plus de résultats parce que tu te sens mieux, plus accompagné.
Mais moi, non, mais après, on peut parler d'émotions. Je déteste tout ce qui est hypersensibilité et compagnie, mais je suis quand même un gros émotif. Hein. Ça se voit, c'est pas très compliqué. Mais moi, je suis dans l'extrême contraire, c'est-à-dire que moi, je veux surtout pas trop écouter mes émotions. Parce que ça te flingue, sinon tu t'écoutes que ça, et que du coup, moi j'ai beaucoup plus de mal du coup à voir entre guillemets le rationnel.
Ah, mais t'es un peu un artiste aussi.
Oui,
mais les émotions que tu vas avoir, etc.
T'as donné la réponse, Augustin. C'est quand tu dis tu n'écoutes que ça. En fait, il ne faut pas écouter que ça.
Non, non.
Il faut écouter et le rationnel et l'émotionnel. Il faut que le rationnel produise des résultats.
C'est ça.
Est-ce que avant t'avais rien, maintenant t'as atteint des résultats, il y a des choses qui se sont passées, t'as fait des trucs, factuellement il s'est passé des choses, et en plus ton émotionnel te dit, et en plus j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce truc, parce que émotionnellement je me sens mieux.
Après, je le pose en question,
et quand
mais
tu
la
combines
réponse, hein.
Les deux, c'est là où la magie opère, c'est quand tu combines les deux, quand tu fais la négation ou du rationnel ou de l'émotionnel,
ça marche pas,
hein. Et ben t'es dans la frustration. C'est-à-dire que tu te dis ah ben merde, j'ai pas les résultats, j'ai pas, etc. Ça c'est le rationnel. Ou j'ai pas l'équipe que je veux, la personne que je veux, la personne qui est importante pour moi, qui m'est chère, etc. Qui peut-être n'est pas exactement dans la configuration que j'attendais, mais la réalité c'est que quand elle est là ça se passe bien, et quand elle est pas là ça se passe moins bien. Et ça c'est pas rationnel, c'est plutôt émotionnel. Donc ce qu'il faut, c'est écouter les deux indications. À partir du moment où tu en oublies une, tu es un peu amputé.
Oui, mais je pense que c'est... Enfin, perso, c'est mon problème. Hein. C'est que c'est soit l'un, soit l'autre.
Moi, je pense qu'on est plus contraire. Toi, t'es plus dans le rationnel et moi, je suis vraiment plus dans l'émotion.
Quand je suis dans l'émotion, je suis que dans l'émotion et je fais n'importe quoi parce qu'il n'y a aucun côté rationnel qui vient me ramener à la réalité. Et quand je suis dans le côté ultra rationnel, bah, je passe pour un connard.
Pour un robot. C'est pas pareil qu'un connard. Un robot plus un robot qu'un connard.
Ouais, mais...
Ou un connard robot.
D'un autre côté, il faut compléter avec le quatrième point.
Le quatrième point.
C'est beau, merci.
C'est, belle transition, c'est la question des résultats. Les gens qui sont obsédés par les résultats, ça pose deux questions. Le premier, c'est à force d'être obsédé par le résultat, les éléments factuels, que les résultats, etc., on finit par oublier de prendre du plaisir sur le chemin qui construit le résultat. Or, ce qui fait que le résultat est exceptionnel, c'est que la route est exceptionnelle. Ce qui est important, c'est le chemin, plus que le résultat. Là où tu apprends le plus, c'est sur le chemin.
Ah, mais ça, c'est la maturité qui fait que tu arrives à le comprendre, parce que je suis incapable de comprendre ça aujourd'hui, Manuel.
Ben, non, c'est pas vrai, puisque tu le comprends déjà.
Alors, je te donne un exemple avec ta chaîne YouTube. Hein. Juste, quand tu fais... Il y a eu une période là où c'était compliqué, il n'y avait pas trop de vues. Bah, tu te faisais quand même kiffer à faire des vidéos, qu'est-ce que tu t'en fous du résultat? C'est un peu ça, hein. Je prends l'exemple pour ta chaîne.
Ouais.
Mais si, c'est ça, parce que ça a duré longtemps, c'est pas facile. Tu dis merde, il n'y a pas de résultat, mais pourtant tu continues à te faire kiffer à faire des vidéos.
Oui, mais du coup, j'attends les résultats sur d'autres projets.
Oui, mais t'as
j'essaie,
quand même...
mais.
Mais t'as quand même pas
tu
de
trouves pas?
Non, je trouve pas. Je trouve qu'à un moment, tu comprends, et je pense que tu as compris d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que tu apprends along the way, sur le chemin. C'est pas tellement ce que tu...
C'est Jean-Claude Van Damme de temps en temps, Manuel, avec moi.
Celui-là, il m'a fait beau, et celui-là, il m'a fait beau.
Il était génial, celui-là.
Celui-là, il était vraiment...
It's along the way.
Along the way.
Parce que c'est plus beau en anglais, en fait, je suis désolé, mais c'est...
Avec sur le chemin, c'est un peu moins un vendeur. Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est exactement... C'est ça qui est intéressant. Et après, le deuxième élément, c'est que c'est les gens qui sont des contemplatifs. C'est-à-dire que ça y est, ils ont un résultat, et du coup, le résultat est là. Ils vont le contempler pendant une éternité.
Ouais, ils se branlent avec, quoi.
Par exemple, voilà, c'est plus clair. Et au lieu d'être directement en train d'enchaîner sur le prochain, à partir du moment...
Ouais, mais c'est super frustrant. Quand t'as bossé pendant des mois
sur
un sujet
mais t'as raison.
Qui sort,
ouais.
Au bout de 5 minutes, je suis en mode, bon, et on fait quoi le mois prochain? Et genre, j'arrive pas, non, juste 2 secondes.
Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des moments où tu...
Quoi?
Si, je reprends la chaîne YouTube, tu dis, oh regarde, c'est génial, on a fait tant de vues, et moi, je suis pas là-dedans à regarder les résultats, je te dis, c'est cool, on passe au prochain. Et sur ta chaîne...
Pour les vues, c'est rare, hein, que les gens s'imaginent pas que je suis en train de me branler sur des vues, ai vraiment rien à foutre.
Non,
hein.
Mais tu regardes quand même un peu, t'es là, ouah, c'est bien et tout, et moi, je suis déjà passé à autre chose. Toi, là-dessus, on n'est pas... Je pense que ça dépend du domaine.
Mais sur des gros projets, je suis le lendemain, je suis sur autre chose. Mais parfois, j'aimerais bien parfois profiter un tout petit peu plus du résultat.
Et à partir du moment où tu remets les choses dans l'ordre, tout va beaucoup mieux. C'est-à-dire que si tu acceptes que ce qui a été le plus intéressant, c'est le chemin travaillé pour obtenir ce résultat, eh bien tu te dis, bah, le chemin il a duré longtemps. Ça s'est passé dans l'obscurité, hein. Ça personne n'en parle, parce qu'en général, quand tu fais un projet, tu le fais dans le plus grand des secrets, etc. Puis le jour où il sort, tout le monde est là à te féliciter, mais la réalité c'est que tu dois déjà être sur le prochain.
Et puis t'es déjà sur le prochain, et trois quarts du temps quand ça sort t'es déjà sur le prochain.
Mais c'est ce que je dis, ouais. Mais c'est que parfois j'aimerais juste profiter un petit peu plus, comme le grand public qui regarde le projet qui arrive, de temps en temps j'aimerais me poser en me disant, oh c'est joli,
t'as pas les moyens d'être contemplatif, parce que si t'es contemplatif t'es à l'arrêt, et si t'es à l'arrêt t'es pas en train de travailler sur la suite.
Mais c'est plus
ça,
fort que moi,
question.
C'est comme ça, je sais que c'est comme ça, mais parfois j'aimerais bien... savoir ce que c'est que de se poser. Je sais pas ce que c'est.
Mais parce que c'est pas ta vocation, c'est pas ta mission. C'est voilà, t'es pas fait pour ça.
C'est pas ton habitude de te poser par moment. T'as pas l'habitude.
Voilà, tu peux le faire quelques minutes, tu peux regarder, tu peux te dire, bon, ok, bah, c'est cool, tiens, regarde, ces 5 dernières années, voilà, ma trajectoire, elle est plutôt comme ça, etc. Mais au bout de 5 minutes, faut passer à autre chose.
Tu peux pas
te
déconnecter.
Parce que si tu es dans le contemplatif à fond, et que tu commences à te dire, putain, cette dernière année, j'ai quand même fait tout ça, il m'est arrivé tout ça, etc., etc. Eh bien, du coup, t'es pas dans l'action de la suite, et donc tu hypothèques complètement, toi-même par ton inaction, tu hypothèques le fait que ça dure. Et donc tu maximises le fait que tu vas rechuter.
Et avec tes équipes, par exemple, est-ce que pour tes équipes qui, elles, n'ont pas les mêmes objectifs que toi, n'ont pas les mêmes missions que toi, est-ce que tu... tâche de prendre un petit peu plus de temps pour les féliciter d'un projet qui vient de sortir, pour essayer de leur faire profiter un petit peu plus à elles, à ces équipes qui ne sont pas du tout dans le même objectif que toi, ou quoi qu'il en soit, les gens autour de toi subissent ta vision des choses et ta façon de...
Non, c'est important pour les équipes de se rendre compte qu'elles ont fait quelque chose d'important, etc. Mais
pas trop longtemps non plus.
Voilà.
D'accord. Ok.
Et c'est pour ça qu'il y a des managers entre les équipes et moi.
Parce que il y a une personne qui est faite pour caresser les gens et...
pas qu'une, il y en a plein. Ouais, il y a des managers équipe par équipe qui prennent du temps, qui célèbrent, qui vont s'arrêter, etc. etc. et qui vont prendre le temps de décortiquer, de féliciter, de etc. etc. Voilà. Mais quand on se dit qu'il y a urgence, que le temps passe à une vitesse folle, que finalement personne ne nous attend et qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, on se dit qu'on est toujours en retard. À partir du moment où on se dit qu'on a du temps et que le temps est inépuisable et que le temps est une ressource inépuisable.
Il y a énormément de gens qui ne se rendent pas compte, Manuel. Eh bien, il y a plein de gens qui...
On a les moyens d'être contemplatifs, on a les moyens de s'arrêter, on a les moyens de dépenser ce temps à regarder, etc. etc. Moi, je considère que le temps est la ressource la plus précieuse dont on puisse disposer.
Et c'est pas bien ou mal d'être contemplatif, de prendre le temps, de vivre, etc. Il faut simplement que ça soit en adéquation avec vos objectifs. Et vous pouvez pas demain prétendre vouloir être comme un entrepreneur qui a dû sacrifier beaucoup de choses dans sa vie tout en voulant aller jouer au foot 4 heures par jour pour vous amuser et prendre du bon temps avec vos copains. Ça collera pas au quotidien que vous devez mener. Mais c'est pas pour autant grave, il faut juste être lucide.
Exactement. Et moi,
je pense que c'est le plus compliqué, hein. C'est la lucidité.
Si je devais le résumer, je dirais voilà, essayez de mettre en phase ce que vous faites, le niveau de discipline que vous mettez dans votre vie avec le niveau d'ambition que vous mettez dans votre vie. Et arrêtez de vous plaindre que vos ambitions ne sont pas atteintes si vous ne mettez pas la discipline qui va en face. On obtient les choses dans l'effort. La vie, ça pique. C'est compliqué. C'est douloureux. Et on obtient des résultats différents de la moyenne à partir du moment où on utilise des moyens différents de la moyenne. Donc si on est capable de produire plus d'efforts, d'aller au-delà de ses limites, d'aller au-delà de ses difficultés, d'aller au-delà de ses blocages, d'aller au-delà de ses peurs, alors on obtiendra des résultats différents. Et il se trouve que c'est formidable, parce que quand on le fait, ça peut être agréable.
Même alors un truc chiant, c'est ce que je disais tout à l'heure, même un truc chiant, ça devient agréable.
Même un truc dont on n'a absolument pas envie à la base, ça peut être parfaitement agréable. Il faut juste le faire. Et quand on le fait, on se rend compte que c'est pas mal, que c'est plutôt cool, et que du coup on obtient des résultats différents. Si on veut pas des résultats différents, si on veut les mêmes résultats que la moyenne des gens, si on veut les mêmes résultats que la moyenne des gens qui nous entourent, alors on n'a pas besoin de produire tous ces efforts, toute cette autodiscipline-là. Et c'est pas un problème, il faut juste
l'accepter.
L'admettre.
Voilà, c'est exactement. Tout. Merci Manuel, merci Augustin.
Merci Romain.
À très vite dans un prochain Takeout. D'ici là, on se parle évidemment sur Twitter avec le hashtag Takeout. Ciao tout le monde.
Au revoir.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.